le dos parce que il fait de plus en plus froid. Mais c'est pas une petite laine habituelle. Je sais pas si vous l'avez reconnu parce que vous y connaissez pas en rugby ici quoi. Avant. C'est le seul maillot de rugby que j'ai et c'est celui de l'Afrique du Sud. Hein. Parce que vous savez qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup de Hollandais. Ils ont alors il faut parler avec précaution. Ils ont aidé à l'éclosion de l'Afrique du Sud au XVIIe siècle. On les appelait les bourgs. Et vous savez, les bourgs, ça veut dire quoi? C'est les paysans hollandais qui ont travaillé en Afrique du Sud. Et ils ont gagné la Coupe du Monde de rugby hier. Les Français n'ont pas dépassé les stades de quart de finale, je vous le rappelle, etc. Et on a vécu un grand moment, c'était contre... je vois qu'il y a des remous là, hein, mais... Zuid Afrika. Et ce qui est intéressant, c'est que le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud, c'est un black. Et c'est la première fois qu'un capitaine black reçoit la Coupe du Monde de rugby entre les mains. Et il a fait un petit discours après, c'était un super discours. Il parlait de la joie pour sa nation, l'Afrique du Sud, d'être champion du monde. Que ça faisait du bien au pays où il y a des inégalités sociales, où il y a des problèmes, beaucoup de problèmes. Et il en parlait avec enthousiasme, enfin pas des problèmes, mais il parlait de sa nation et de son désir d'être un exemple pour sa nation. Et puis quand il a soulevé la coupe, Yvonne a vu quelque chose d'inscrit sur son serre-poignet. Et ce matin, elle a pris une photo du gars, il s'appelle Colsey. Son prénom, Sia, Colissi. Et elle a fait un zoom et elle a vu que sur son serre-poignet, il y avait marqué Jésus. C'est chouette. Quel témoignage. Ça m'a fait plaisir. Je ne suis pas un supporter de l'Afrique du Sud, plutôt de la France. Mais j'aime bien ce capitaine, Colissi. Je vous parle de cette semaine, il m'est arrivé une aventure extraordinaire. Je me préparais pour aller à mon cours d'italien avec Cannes Université. Et, j'étais un peu en retard. Je prends mes affaires, je prends ma gomme, mon crayon de papier, mes fascicules d'italien. Et puis je pars à pied pour faire mes 10 000 pas par jour. Il faut marcher. Et puis je me presse. Je suis vraiment en retard. Ce n'est pas mon habitude, mais je suis en retard. Je transpire un peu. Et puis j'arrive, espace Mimon, derrière la gare, là. Et je vois que la porte d'entrée de l'immeuble est fermée, mais il y a une femme de ménage à l'intérieur qui me dit « il y a un bouton pour ouvrir la porte ». Ah ouais, j'avais jamais fait ça. Et puis j'avance 30 mètres dans le bâtiment, je tourne à gauche vers les salles de classe, et là je trouve la porte fermée. Ah, je veux dire, le cours, avant, j'ai vu qu'il n'y avait personne dans le hall, je me dis « tiens, le cours a vraiment déjà commencé, il était 35 évidemment ». Effectivement. Et donc, je veux la porte fermée. J'essaye la porte fermée. Et puis, il me dit, il faut deux secondes. C'est les vacances. Il n'y a pas cours. Et je le savais. Mais devant cette porte fermée, j'ai eu un grand moment de solitude quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des expériences de portes fermées devant vous, certainement. Mais il y a un sentiment quand même d'insécurité, de perplexité, mais aussi un peu d'abandon, de solitude, d'exclusion. Et tout le monde savait, sauf moi. Oui, c'est une expérience intéressante, l'expérience de la porte fermée. On continue aujourd'hui notre série sur le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse à Philadelphie, avec les chapitres 2 et 3 de cet Apocalypse, donc c'est le dernier livre de la Bible, Apocalypse qui ne veut pas dire catastrophe, je le dis à chaque fois, même si dans le langage courant aujourd'hui on dit oh, c'était un univers apocalyptique, après un ouragan, après un tremblement de terre, etc. Non, ce n'est pas une catastrophe, mais c'est une révélation. En grec, apokalupteo, révélé. Révélé. Dieu veut nous révéler des choses à travers cet Apocalypse. Et ce qui était surprenant, c'est que dans les premiers chapitres, il révèle ces choses à des églises locales. Pas des églises, pas l'église universelle qui est le rassemblement invisible de tous les croyants, mais des églises locales comme les nôtres. Laodicée, Smyrne, Philadelphie, Sardes, Thyatire, j'en oublie quelques-unes. Et il adresse des messages et des gemelles, ou des gemelles, il faudrait dire. Et vous avez vu ce dessin, là, il y en a sept, hein, donc c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet et qui parle vraiment de l'Apocalypse. Alors quelqu'un m'a dit un jour que c'était Google. Gmail, c'est Google Mail. Moi, je dis non, G, c'est God, c'est Dieu. Alors, on aurait pu mettre J pour dire Jean, l'auteur de l'Apocalypse, ou on aurait pu mettre J pour Jésus, le véritable auteur de l'Apocalypse et de ses lettres aux sept églises. Et d'ailleurs, chaque lettre commence par désigner l'auteur, présenté différemment selon l'Église. Et pour Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable. L'auteur est désigné. C'est Jésus qui parle. C'est l'Esprit de Jésus qui parle. C'est l'Esprit du Christ qui transmet ses vérités à l'intérieur de nos petites personnes. Ça, c'est ça l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre d'inspiration, d'ailleurs. D'abord, c'est l'Esprit qui inspire les paroles de la Bible et de l'Apocalypse. Et c'est l'Esprit aussi qui les imprime dans notre cœur. Inspiration et impression, c'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Et voilà ce que dit le Saint, le véritable, c'est Jésus qui nous parle. Et la phrase qui revient comme un leitmotiv dans tout l'Apocalypse, et surtout dans les lettres de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et te dit, toi, à toi, ce matin. Alors, que dit-il aux églises? C'est le moment de l'interrogation. Éphèse, qu'a-t-il dit? J'ai prêché sur Éphèse il y a 3 semaines, la lettre à Éphèse. C'était l'église de... Je vous écoute, les amis, l'interrogation commence. Ah, bravo. Bravo. L'église ou la perte de son premier amour. Ce que j'ai contre toi, voilà, tu fais plein de choses bien, l'église d'Éphèse, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et puis, il y a eu Smyrne, où l'église, je sais, depuis 30 ans, vous savez que les gens retiennent 10% des prédicateurs, l'église en souffrance, et là aussi, l'Esprit avait des choses à nous dire, qui sommes parfois en souffrance. Alors, nous ne nous arrêterons pas à Thyatire, ni sur l'église de Pergame. Nous ne parlerons pas non plus de l'église de Sardes, qui est l'église endormie. On ne va pas la réveiller. Mais nous voguons vers Philadelphie. Alors, que va-t-il se passer à Philadelphie? Quel est le message pour Philadelphie? Et je vous invite à le lire ensemble. À l'Église, à l'ange de l'Église qui est à Philadelphie, écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute, ça c'est pas entendre, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je vous invite à la prière. Nous te remercions, Jésus, parce que tu veux nous parler encore aujourd'hui. Et on te remercie pour cette parole vivante, toujours actuelle. Merci pour ces paroles que tu as inspirées pour ces auteurs du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Et nous prions, Seigneur, que nous puissions, qu'elles puissent trouver un cœur disposé, ouvert, à les recevoir. Seigneur, ta parole, comme dit ta parole, comme Paul le dit à Timothée, est utile pour convaincre, pour édifier, pour faire grandir dans la foi. Oui, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour situer un petit peu Philadelphie, d'ailleurs, on remarque, on a commencé par Éphèse, en bas à gauche, et puis on a fait Smyrne, on saute Pergame et Thyatire et Sardes, et on va vers Philadelphie. Il y a tout un tour, et ça va du sud-est au sud-ouest, une boucle comme ça. Alors, il faut savoir qu'au 1er siècle, date à laquelle l'Apocalypse a été écrite, c'est une ville qui n'a pas une grande puissance financière ou commerciale, elle n'a pas de port, elle n'a pas beaucoup d'artisans, elle n'a que des vignes, avec un sol volcanique, donc ça donne du bon vin, mais elle n'a que ça, et elle tente de survivre avec simplement cela, tant bien que mal, car... bien souvent, au cours de son histoire, Philadelphie a eu des temps de famine très durs et aussi des séismes. C'est une région sismique que Philadelphie. Une petite ville sans puissance et sans beaucoup d'importance, un petit peu comme Vierzon en France. Je ne sais pas si vous connaissez Vierzon, mais c'est nous, quand on habitait Orléans, Vierzon, c'était le bout du monde. Je ne sais pas quelle est la ville que vous diriez dans la région pour dire le fin fond de l'Ivoire. Je ne m'engage pas dans cette histoire, mais le bout du monde civilisé. L'intérêt de Philadelphie est essentiellement géographique. Elle est entre trois régions importantes de l'Asie mineure, la Phrygie, la Lydie et la Mysie. Trois régions et qui sont quand même des régions un peu sauvages pour le gouvernement central, le gouvernement romain. Et Philadelphie, justement, a été fondée en 140 avant Jésus-Christ, dans un esprit essentiellement missionnaire. Pas pour propager l'évangile, mais pour propager la culture et la langue grecque. Et donc Philadelphie a cette mission de propager la langue grecque et la culture grecque. Alors, il y a eu d'assez bons résultats. La Lydie parlera grec en 19 après Jésus-Christ, exclusivement grec. Par contre, la Phrygie parlera toujours phrygien, un petit peu comme les Basques ou les Bretons et les Corses. Pas d'assimilation à la culture grecque. Et donc, c'est dans cette ville, dans une ville sans grand renom, que Jésus va faire une promesse, ou plutôt un appel, celui de la porte ouverte. Voici, je place ou j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. L'église, l'Apocalypse à Philadelphie, ou l'église de la porte ouverte, ou journée porte ouverte à Philadelphie. Alors, quelle porte? De quoi s'agit-il? Alors, quand on parle de porte, on peut penser au salut, la porte du salut, la porte du royaume de Dieu, la porte de la présence de Dieu dans sa vie. Comme au chapitre 4, verset 1 de l'Apocalypse, je vis une porte ouverte dans le ciel. La porte du ciel. C'est possible, mais quand on regarde d'un autre côté tous les autres emplois du mot porte dans le Nouveau Testament, on voit qu'il s'agit d'une métaphore pour parler d'une occasion, ou une opportunité, comme on dit aujourd'hui. Même au football, on ne parle plus d'occasion, mais il a une opportunité. À mon avis, ça a deux sens différents, mais c'est pas grave. Et cette compréhension correspond peut-être mieux au contexte de la ville de Philadelphie. Une porte ouverte pour Paul, par exemple, dans d'autres situations, c'est une occasion d'annoncer l'Évangile. À Troas en particulier, ou quand il est en prison à Rome, il demande qu'on prie pour qu'une porte s'ouvre, c'est-à-dire qu'il puisse témoigner de l'Évangile aux gardiens. Bref. Et donc, une porte ouverte, ce serait l'occasion d'être utile à Dieu de manière significative. D'être une occasion d'être utilisé par Dieu d'une manière toute particulière. Et il donne, en proposant une porte ouverte à l'église de Philadelphie et aux gens de Philadelphie, il faut faire toujours ce passage entre l'église, la communauté et l'individu. Et il donne cette occasion à cette église insignifiante comme la ville, sans beaucoup de puissance. Je le sais, tu n'as que peu de puissance, un manque de puissance, avec une puissance microscopique, hein, j'ai mis un peu de grec là, mikran dynamine, c'est dans le texte, hein, dynameis, la puissance qui a donné le mot dynamique, et puis mikran, micro, microscopique, petit, comme la voiture, la Micra Nissan, qui est une toute petite voiture, qui n'a pas beaucoup de puissance. Mais voilà, vous êtes une église avec peuplée de chrétiens tout à fait ordinaires, dit-il, à Philadelphie, sans beaucoup de moyens. Dieu ouvre une porte. Il leur donne l'occasion d'être utilisés par lui, non pas pour répandre la langue grecque, mais pour témoigner de la puissance de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Christ dans la région. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais il faut remarquer qu'ils sont extrêmement persévérants. « Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. » Un manque de puissance, mais de la persévérance à revendre pour cette église de Philadelphie, pour ces chrétiens de Philadelphie. Et donc, même devant l'opposition, parce qu'il y en a, et j'ai sauté le côté opposition dans le texte, ces Philadelphiens restent fidèles, et Dieu place une porte devant ces gens-là en manque de puissance. Alors, on ne sait pas trop si l'église de Philadelphie s'est saisie de l'occasion, si elle a franchi la porte. Il semble que oui, mais cette histoire de porte ouverte, elle est à prendre aussi pour chacun d'entre nous. À recevoir pour chacun d'entre nous. En tant qu'Église, encore une fois, et en tant qu'individu, cette porte ouverte, elle est aussi là devant nous. Devant nous aussi, Dieu place des portes ouvertes, des occasions, des opportunités de lui être utile, de le suivre. Et il y a la porte du salut. On entre dans le royaume et puis il y a cette porte qui est l'occasion de continuer, de poursuivre, d'être utile à Dieu. Et on se dit peut-être que les deux se confondent, que le plus grand don que Dieu puisse nous faire, ce n'est pas de nous donner tout le confort à la maison, ce n'est pas de nous donner toute la sécurité dans la vie ou la santé dans tous nos organes jusqu'au petit orteil, mais le don le plus grand qu'il puisse nous faire, c'est le don de la porte ouverte. C'est la possibilité, l'opportunité d'être utilisé par lui sur cette terre et de façon significative, vraiment significative, qui a du sens. Notre Dieu est le Dieu des portes ouvertes. Et nous sommes, pour la plupart, je ne voudrais pas vous vexer, mais comme les Philadelphiens, nous sommes très ordinaires. Nous avons peu ou pas de puissance. Nous ne sommes pas très dynamiques, hein, ovo maltine. Mais là n'est pas la question quand on passe à travers
la porte ouverte. Quand on franchit le pas de cette porte, alors la puissance de Dieu se met en marche, se déclenche en quelque sorte par notre volonté, par notre obéissance à vouloir nous saisir des occasions que Dieu nous laisse devant nous, que Dieu nous présente. Et la faiblesse ou le manque de puissance n'est pas une bonne raison de ne pas franchir le seuil de la porte que Dieu a ouverte devant nous. Je suis trop faible, je manque de puissance, je n'ai pas de moteur HDI, GTI, TDI. Je ne sais pas comment ça se convertit en moteur électrique, mais bref, je suis juste une petite voiture. Au contraire, non, ce n'est pas une bonne excuse. Au contraire, même, il semble que le manque de puissance et le fait de le reconnaître soient plutôt un prérequis pour déclencher la puissance de Dieu quand on franchit le seuil de cette porte qu'il nous a ouverte. D'ailleurs, la Bible à la colombe, il y a longtemps qu'on en parle plus de cette Bible, mais qui a des bonnes traductions, disait pour le même texte, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte parce que tu as peu de puissance. » C'est ce que dit Paul aux Corinthiens de ce manque de puissance et qui pourrait s'adresser à toutes les Philadelphies du monde. Il s'adresse aux Corinthiens, là, à Corinthe, qui est quand même une ville plus considérable, mais qui dit « Considérons donc votre situation, frère. Qui êtes-vous que Dieu a appelé à lui ?» On ne trouve parmi vous que peu de sages selon le critère humain, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce qui est faible pour confondre les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Dieu choisit d'utiliser de manière significative les choses insignifiantes selon les critères de ce monde, et Dieu choisit d'utiliser puissamment des choses et des gens qui justement n'en ont pas. La Bible est le récit de portes ouvertes placées par Dieu dans la vie et des hommes et des femmes ordinaires. Il y a dans Genèse 24 l'histoire de cette longue histoire du mariage d'Isaac avec Rebecca. Abraham envoie un serviteur, Eliezer, pour trouver une femme à son fils Isaac. Un mariage décidé par les parents, un mariage arrangé. Alors le serviteur, il fait des kilomètres pour trouver l'oiseau rare et il arrive à un puits où cette femme est là et qui fait tout ce qui a été prévu. Alors il va voir la parenté de la fille, le père et le frère du père, donc Laban et Bethuel, qui semblent être d'accord. Bah ouais, ça m'a l'air d'être un bon parti. Mais le lendemain, il y a comme un problème aux modalités du départ et ils vont faire quelque chose d'exceptionnel pour l'époque. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à la fille. Magnifique ça. Genèse 24, 57, « Appelons la jeune fille, dirent-ils, et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui demandèrent, « Veux-tu partir avec cet homme ?» Et il y a là pour cette jeune fille comme une porte ouverte. Partir avec cet homme, cela veut dire quitter la sécurité du foyer familial, aller dans un pays étranger, devenir nomade avec quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, même si on est plus proche d'Ève, d'Adam, bon, bref, partir à l'aventure, une grande aventure. Et cette jeune fille va dire un mot incroyable, non pas à Isaac, hein, parce qu'il est à plusieurs centaines de kilomètres de là, elle va le dire à Laban et Bethuel, elle va dire oui. Elle va passer le seuil de la porte qui lui est ouverte et s'engager dans cette aventure avec Isaac. Et elle deviendra la mère d'une nation. Elle sera l'ancêtre du Messie, de Jésus. Et dans l'Ancien Testament, vous savez, on parle souvent de Dieu comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eh bien, dans ces trois personnes, Rebecca compte un mari et un fils. C'est déjà pas mal. 2 sur 3. Un bon score. Et L'histoire retiendra son nom parce qu'elle est passée par cette porte qui lui était ouverte. Et il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, elle n'a aucune conscience, aucune idée de ce qui va se passer de l'autre côté de la porte, mais elle la passe, elle passe le seuil de la porte avec confiance, avec spontanéité, et elle pressent peut-être. Peut-être l'esprit est à l'œuvre aussi, que derrière la porte, il y a une grande histoire d'amour avec Isaac et peut-être avec Dieu. Alors, question à toutes les femmes que nous avons ce matin. Qu'auriez-vous fait à la place de Rebecca ? Seriez-vous partie avec un étranger sans avoir vu la tête de votre futur mari, même pas sur Internet ? Auriez-vous dit oui à l'aventure avec Dieu ? En voilà une bonne question, quelle est bonne ? Et en voilà une autre. Et si elle avait dit non, je ne pars pas. Si devant cette porte ouverte d'une grande aventure pour Dieu, elle avait dit non. Et c'est une bonne question parce que devant des portes ouvertes par Dieu, il y a certaines personnes qui disent non, ou je ne sais pas, qui tergiversent. Qu'est-ce qui se passe alors ? Je vous raconte une histoire de l'empereur mongol Kublai Khan, en 1269, il a envoyé une missive au pape de l'époque, et dans sa requête, il demande, je cite, il demande une centaine d'hommes sages de religion chrétienne et qu'ainsi je puisse me faire baptiser ainsi que tous mes barons et tous les nobles, et tous leurs sujets se feront baptiser également, et ainsi il y aura plus de chrétiens ici que dans vos pays. Les Mongols, à l'époque, étaient à une époque charnière du point de vue de la religion, et ils n'étaient pas décidés, et comme l'empereur le prévoyait, on aurait pu assister au plus grand mouvement religieux de toute l'histoire de l'Église. Tout le destin de l'Asie aurait pu être radicalement changé. Et au lieu de ça, le pape Grégoire X envoya deux malheureux dominicains qui n'allèrent pas plus loin que l'Arménie. Ils étaient malades comme tout. Et ils reviennent au Vatican sans avoir vu un seul Mongol. C'est ainsi qu'est passée la plus belle opportunité missionnaire de toute l'histoire de l'Église. Il n'y a pas d'histoire plus triste que de portes ouvertes non franchies. Mais aussi des histoires joyeuses de portes ouvertes qui ont été franchies par Rebecca, mais aussi par Esther, à Suse, à la cour du roi Xerxès. Esther, arrivée, parvient à devenir reine, et Mardoché, un responsable juif, lui dit « Qui sait si ce n'est pas pour cette occasion-là que tu es devenue reine ?» Pour pouvoir protéger les juifs en danger, déjà, à l'époque. C'est pas parce que juste tu as gagné un concours de beauté et que tu es pas mal de ta personne, mais c'est parce que Dieu t'a ouvert une porte pour que tu puisses faire quelque chose de significatif pour lui dans cette vie. Ou Néhémie, qui est dans la fonction publique, qui est goûteur de vin à la cour du roi Artaxerxès, et qui tout d'un coup, comme Martin Luther King, a un dream. « I have a dream », dit Néhémie, celui de reconstruire les murailles de Jérusalem. Dieu lui ouvre une porte, et il la franchit, et il reconstruit les murailles de Jérusalem avec du bois de Perse et avec un accord du roi. La liste est longue des passeurs de portes ouvertes, et si on pouvait mettre notre nom derrière. Cette liste de gens qui passent les portes ouvertes avec foi et courage et peut-être avec un brin de folie. Une question, chers amis, avez-vous remarqué une porte ouverte dans votre vie ? Quelle est cette occasion que Dieu vous donne aujourd'hui d'avancer dans sa vie, dans la vie chrétienne, peut-être même dans la vie tout court ? Si vous ne voyez rien, avez-vous déjà prié pour que des portes s'ouvrent, oui, devant vous ?
le matin ou le soir dans votre prière, « Seigneur, donne-moi des portes ouvertes, des occasions de te servir, de t'obéir, de t'aimer. »
Quelle serait votre porte ouverte ce matin, cette opportunité, cette occasion d'être utilisé par Dieu d'une manière significative? Alors, j'avais fait toute une liste très pratique, parce que j'aime être pratique, mais je me suis aperçu qu'en faisant une liste, c'était un petit peu trop dirigé quand même. C'est à chacun de repérer la porte ouverte dans sa vie. Mais je suis convaincu qu'il y en a une et que le Saint-Esprit vous l'indiquera et vous l'indique déjà. Peut-être maintenant, imprime au fond de votre cœur une occasion d'obéir à Dieu, une occasion de faire le bien autour de soi et de le faire bien, une occasion de changer d'attitude dans sa vie, une occasion de pardonner ou de demander pardon et de vivre dans la repentance. Une occasion de prendre un nouveau départ. Il y a des portes ouvertes devant nous. Mais comme d'habitude, dans les lettres aux églises de l'Apocalypse, il y a un encouragement. Il y a une promesse pour tous ceux qui ont des portes ouvertes devant eux, comme pour Philadelphie. Et il faut des encouragements pour ceux qui doivent passer des portes ouvertes, parce que une porte ouverte, ça ne signifie pas la facilité. Ça se saurait. Jean, qui est en exil à Patmos, peut-être même avec des chaînes aux pieds, en sait quelque chose. Passer la porte ouverte, c'est aussi rencontrer de l'opposition, aussi recevoir des critiques de ceux qui pourtant se revendiquent parfois du même camp. Et ce n'est pas facile. Malgré la porte qui nous paraissait ouverte, on se met peut-être même à douter. Est-ce qu'elle était vraiment ouverte? Est-ce que c'était vraiment une occasion? Vous savez, Rebecca, elle a eu beaucoup de problèmes avec Jacob et Ésaü. Beaucoup de problèmes. Ça, c'est pas fait sans heurts. Les portes ouvertes placées par Dieu le sont aussi ouvertes aux difficultés et aux épreuves. Et donc, Jésus va donner à travers Jean, un encouragement énorme à tous ceux qui hésitent à franchir le pas. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Et il s'agit d'un texte du prophète Ésaïe et qui dit et qui nous fait entrer dans la symbolique des clés, les clés de la porte de la ville, les clés de la cité. C'est le symbole de l'autorité. Et c'est le symbole de la propriété. Celui qui tient les clés, c'est celui qui a autorité sur la ville. Et celui qui tient les clés dans notre texte, c'est le Christ lui-même. C'est lui qui a autorité. C'est lui le propriétaire. C'est moi qui ai les clés, dit Jésus à tous ceux qui sont devant une porte ouverte et qui hésitent encore. Je veux que vous le sachiez. Celui qui vous demande de passer cette porte ouverte est le même que celui qui tient les clés de cette porte. Celui qui a autorité sur le monde et sur ta vie. En d'autres mots, il n'y a rien sur cette terre ou dans ce monde, il n'y a pas d'être humain, pas de série de circonstances dans ce monde qui pourrait nous empêcher d'accomplir ce que Christ nous demande. Personne ne peut fermer cette porte, c'est Christ qui en a les clés. L'Empire romain pensait avoir tout cadenassé en mettant Jean en exil sur Patmos. Ils avaient même mis les chaînes. Mais Jean, sur cette même île de l'exil, écrit l'Apocalypse et encourage dans cette église, encourage toutes les églises d'Asie mineure et toutes les églises des siècles à venir. Et nous, aujourd'hui, maintenant, à Cannes, personne n'a pu fermer la porte ouverte par Dieu lui-même. Parce qu'à partir du moment où l'on franchit la porte, c'est la puissance de Dieu qui se met en route, c'est le tout gros moteur de Dieu qui se met à l'œuvre avec tous ses chevaux vapeurs qui courent vers l'éternité. Alors, il y en a peut-être parmi nous qui sont à un petit mètre de la porte ouverte, de cette opportunité d'avancer avec Dieu, et qui se demandent encore, est-ce que je vais risquer de donner de moi-même, de me lancer dans de nouvelles aventures pour le royaume de Dieu?
Et à tout cela, Jésus dit, je tiens les clés, je suis déjà à l'œuvre. Ce sera difficile, mais je suis le propriétaire des lieux. Et ce n'est pas rien de travailler pour le propriétaire. Et il ajoute aussi du vainqueur. Je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Et cette promesse a dû avoir un écho pour les habitants de Philadelphie, région sismique. Du vainqueur, je ferai un pilier. À vous qui vivez dans une ville instable ou dans une vie instable, je ferai de vous des piliers dans le temple de Dieu. C'est Jésus qui dit. C'est là la promesse pour ceux qui franchissent des portes ouvertes par Dieu. Et les promesses sont là pour nous pousser à les franchir parce que la crainte est là de ne pas être à la hauteur ou d'être pris quelque part au piège. Ou si on franchit la porte d'être redevable de quelque chose à quelqu'un ou de devoir renoncer à beaucoup. Oui, ce sont toutes nos craintes qui nous empêchent de franchir les portes que Dieu lui-même a ouvertes. Peur de ne pas franchir le pas qui, de ne pas faire le pas qui franchit le seuil. Et c'est vrai, il y a le pas. Il y a le pas de la foi. On en a parlé au parcours Alpha, mercredi, jeudi dernier. Le pas de la confiance, c'est ça la foi. Le pas de la confiance avec un peu de risque. Le risque de franchir cette porte que Dieu a ouverte dans nos vies. Mais de l'autre côté de la porte, il y a toujours Dieu qui nous accueille dans ses bras d'amour. Il l'a manifesté par son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Notre Dieu, chers amis, est le Dieu de la porte ouverte. Amen.